cours d'économie.
Flambée des prix du cobalt vers une transition accélérée des fabricants des batteries électriques alors que les grands producteurs du Congo invoquent la force majeure et plaident auprès des autorités. Nord Kivu, les agriculteurs retournés de Rutshuru frappés par des mauvaises récoltes et appellent à l'aide humanitaire face aux effets du climat, au manque d'intrants et à la pression foncière. Bienvenue à tous dans ce magazine. La filiale commerciale de CEMOC Group, premier producteur mondial de cobalt, a déclaré un cas de force majeure concernant les livraisons de ce métal pour batterie suite à la prolongation de l'interdiction d'exportation par la République démocratique du Congo. Ben Chokuta nous en dit plus.
Le Congo, qui représente environ les trois quarts de l'approvisionnement mondial en cobalt, a initialement suspendu ses exportations pendant 4 mois le 22 février. Avant de les prolonger de 3 mois supplémentaires en juin. Les prix du cobalt ont chuté ces dernières années en raison de la forte production du pays, notamment de deux grandes mines exploitées par la société chinoise CEMOC. IXMSA, propriété de CEMOC, a officiellement déclaré un cas de force majeure concernant ses contrats d'approvisionnement en cobalt en raison de l'interdiction d'exportation en cours, a déclaré la société commerciale dans un communiqué lundi. Des clauses de force majeure permettent aux entreprises de suspendre leur livraison en cas d'événement indépendant de leur volonté. Rappelons que le gouvernement congolais souhaite exercer une plus grande influence sur les prix du cobalt en alignant l'offre sur la demande mondiale. Des analystes ont averti que des contrôles trop stricts et une flambée de prix pourraient accélérer la transition des fabricants vers des batteries de véhicules électriques n'utilisant pas ce métal. La CEMOC a présenté des arguments similaires aux autorités. Les plus grands producteurs de cobalt après la CEMOC sont des géants des matières premières, Glencore, PLC et Eurasian Resources Group Sahel, soutenus par le Kazakhstan, qui possèdent tous deux d'importants actifs au Congo. Telf AG, l'agent commercial du cobalt d'Erge, a aussi déclaré un cas de force majeure concernant les contrats d'approvisionnement en mars.
L'exploitation du manganèse dans la région de Luozi au Congo central va notamment générer 2500 emplois directs et 1500 emplois indirects. C'est le directeur général de la société congolaise Kerit Resources qui l'a dit samedi à Osaka au Japon. Il s'exprimait ainsi à l'issue de la signature du mémorandum d'entente avec la société japonaise Asia Mineral Limited. Mais quelles sont les prochaines étapes après ces mémorandums d'entente? La réponse avec Félix Samouna, directeur général de Kerit Resources. Il est au micro d'Alain Irung.
Les prochaines étapes, c'est que nous allons formaliser maintenant notre joint venture dans 2 semaines en créant une société locale qui va s'appeler Kivuvu Congo Mines. Pour le symbole, nous voudrions l'enregistrer au registre du commerce, mais section Congo Central. Donc après cela, nous allons commencer une étape de sensibilisation de la communauté, expliquer le projet, parce que le projet n'est pas qu'un trou, comme on dit une mine, c'est un projet structurant qui aura beaucoup d'effets d'entraînement sur toute la région, aussi bien dans le domaine logistique, infrastructure, dans le domaine d'énergie et aussi dans le domaine de l'agriculture et bien sûr une création d'emplois du minimum 2500 emplois directs et peut-être 1500 emplois indirects. Après cela, nous allons commencer, disons, début août, une prospection aérienne. Donc nous allons faire venir un avion spécialisé d'Afrique du Sud qui va survoler la région de Luozi pour pouvoir détecter les targets, comme on dit, où il y a vraiment du manganèse pour qu'on ne s'engage pas dans une prospection un peu au hasard.
La première ministre Judith Suminwa salue la signature de ces mémorandums d'entente entre la société congolaise Kerit Resources et la société japonaise Asia Mineral Limited pour l'exploitation du manganèse dans la province du Congo central. C'était, on l'a dit, samedi à l'issue du forum d'affaires RDC Japon auquel ont pris part plusieurs ministres congolais ainsi qu'une centaine d'hommes d'affaires japonais. La chef du gouvernement congolais estime que ces mémorandums d'entente vient consolider la coopération entre la République démocratique du Congo et le pays du soleil levant. On écoute un extrait de l'allocution de Judith Suminwa dans ses propos recueillis par Alain Irung, l'envoyé spécial de Radio Okapi à Osaka.
Ce forum est demeuré une tribune unique par sa portée internationale et la qualité des participants, parmi lesquels les décideurs publics, les institutions financières, les investisseurs privés et les porteurs de projets. Il concourt à offrir à la République démocratique du Congo l'opportunité de présenter sa vision, ses priorités et ses ambitions de développement. Le Japon en est un bénéficiaire et reste un partenaire fiable. Inscrit dans un dialogue politique franc et constructif, notre coopération avec la PR Nippon reste fondée sur une volonté commune de promouvoir des partenariats publics-privés ambitieux et durables. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo s'est inscrite dans un processus de transformation structurelle guidé par une vision claire à long terme, comme cela a d'ailleurs été dit, d'ici 2050, les potentiels de secteurs extractifs, agricoles et énergétiques auront été pleinement valorisés dans l'optique de construire une économie diversifiée.
La République démocratique du Congo s'apprête à accueillir une flotte de 8 bateaux de pêche en provenance de l'Égypte. L'annonce a été faite vendredi lors de la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État. L'arrivée de ces navires est attendue dans les prochains jours au port de Matadi où ils seront réceptionnés avant leur mise en service. Ben Chokuta.
3 charlutiers pour la pêche maritime et 5 bateaux pour la pêche fluviale. C'est le lot que le gouvernement congolais a commandé en Égypte, dans le cadre de sa stratégie de lutte contre l'insécurité alimentaire. Ces navires ont été construits par la société Piriou en partenariat avec les établissements Yetou, avec qui la RDC a signé un contrat en 2023. Selon le ministre de la Pêche et de l'Élevage, Jean-Pierre Chimanga, les bateaux ont quitté le chantier naval égyptien le 5 juin dernier et ont fait escale en Mauritanie pour se ravitailler. Leur trajet est actuellement suivi en temps réel par GPS. Le ministre a également été chargé de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement en faveur de l'Office national de pêche et d'aquaculture pour garantir une gestion rigoureuse et durable de ces nouvelles ressources logistiques. La province du Congo central a été choisie pour accueillir la flotte. Elle accostera au port de Boma, où des dispositions sont déjà prises pour son gardiennage en attendant sa mise en service.
Écho d'économie.
Terminons en Nord-Kivu, dans le territoire de Rutshuru. La première saison culturelle des populations récemment retournées n'a pas été fructueuse. Cet échec de la saison culturelle B est largement attribué aux perturbations climatiques qui ont affecté plusieurs zones. Face à cette situation, les agronomes de la région sensibilisent les agriculteurs à respecter les périodes de semis et à ne pas couper les arbres. Ces pratiques visent à protéger les récoltes du soleil intense et à préserver l'environnement agricole. En attendant la prochaine saison culturelle qui nécessitera également des intrants comme des semences et afin de survivre jusqu'à la récolte suivante, ces familles retournées appellent à l'aide des organisations humanitaires. Retrouvons encore une fois Ben Chokuta qui fait le point.
La récolte a été mauvaise dans plusieurs bassins de production agricole du territoire de Rutshuru selon les cultivateurs locaux. Cette situation met en grande difficulté de nombreux ménages qui, après 2 années passées dans des camps de déplacés, espéraient retrouver une certaine stabilité grâce à leur récolte. Cependant, la réalité qu'ils vivent est tout autre, comme ils en témoignent eux-mêmes.
À mon retour, j'ai repris mon travail au champ, mais là, je suis très déçu, car je n'ai pas réussi à faire même un sac de récolte. Nous demandons aux ONG de nous venir en aide. Nous avions l'espoir que, comme nous quittons les camps des déplacés et nous retrouvons nos champs, nous aurons des récoltes pour vivre. Mais la saison culturelle n'a pas été bonne. Que les humanitaires nous aident avec un peu de vivres pour nourrir nos enfants en attendant.
Un autre défi majeur pour les agriculteurs de Rutshuru est l'accès à la terre. Nombreux qui louaient des champs avant d'être déplacés ne peuvent pas reprendre leurs activités à leur retour, faute de pouvoir payer la redevance exigée par les propriétaires.
Fin de cette émission Écho d'économie. Billy Landry Betou et Alain Goy étaient à la technique. Je suis Jocelyne Moussaou. Merci à vous tous de nous avoir suivis. We'll be right back.